de lancer ces états généraux de la critique de projets d'espace public.
Quelles sont les visées et les enjeux de la critique d'espace public ? Première partie avec Armelle Lemoëlic, Marie Guilpin, Emma Véziez, Tony Leporcher, Cédric Antier et Fanny Romain. Troisième épisode des états généraux de la critique du projet d'espace public, réunis les 21 et 22 novembre 2023 à l'École de la nature et du paysage à Blois. Un podcast présenté par le réseau Critique et Projet de paysage.
Voilà, donc on a effectivement Armelle Lemoëlic, on aurait dû commencer par là tout à l'heure, hein, vous nommez les uns après les autres, donc docteur en architecture et qui est directrice de la communication et de la stratégie dans l'agence TVK, qui a fait, mes infos sont exactes, donc une thèse en 2015 sur le projet urbain au Japon en essayant de montrer l'architecte, le positionnement de l'architecte dans un réseau d'acteurs. On a ensuite Marie Guilpin, qui est géographe urbaniste, qui a fait également une thèse en chiffres à la fois donc au labo ESO de Rennes et à l'atelier Ercili, dont je parlerai ensuite. Donc sa thèse qui est sur la prise en compte de la santé dans la conception des espaces publics. C'est bien ça, c'est-à-dire l'aménagement du territoire et le bien-être. Et donc ça, elle l'a fait au sein de l'atelier Ercili, donc, qui est représenté avec toi aujourd'hui, et donc qui sont paysagistes en Bretagne, maîtres d'œuvre, si j'ai bien compris. Voilà. Et puis, on a enfin Fanny Romain, qui est maître de conférence à l'agrocampus Ouest d'Angers. Et donc sur la pratique et la théorie du projet de paysage, et qui a fait aussi une thèse en fait sur l'imaginaire des cours d'eau, l'évolution et la permanence des représentations des espaces fluviaux, si j'ai bien compris. C'est-à-dire en quoi le fleuve peut être initiateur de projets urbains et comment les imaginaires liés au fleuve transforment le paysage. À toi, Armelle.
Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, au moment du lancement, on a souhaité présenter à la fois l'étude qui s'appelle Les Places du Grand Paris et qui fait l'objet aujourd'hui d'une seconde vie sous la forme d'un ouvrage qui est paru en librairie depuis un mois. Les Places du Grand Paris, c'est une étude commandée par la Société du Grand Paris pour fabriquer un référentiel de l'aménagement des espaces publics autour des 68 gares du Grand Paris Express. Et donc j'aurais pu parler de plusieurs manières en fait de la dimension critique de ce travail. Il y aurait eu un premier champ que je trouve assez passionnant parce que cette étude, elle a été menée de 2017 à 2019 et qui est un moment un peu coincé entre deux grands moments de l'espace public, c'est-à-dire un moment qui a été le traumatisme lié aux attentats et donc avec une problématique qui était celle, que mes collègues m'ont souvent raconté, de ce référentiel-là, l'hypersécurisation de l'espace public. Et après, ce qui va être un changement total de perception qui a été donc l'épisode du Covid. L'autre champ qu'on aurait pu explorer, enfin que j'aurais pu vous parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça veut dire de fabriquer un référentiel pour l'aménagement des espaces publics. Référentiel qu'il faut imaginer, donc c'est 68 gares dans le Grand Paris, donc c'est 68 situations géographiques complètement différentes. Voilà, comment on fabrique ce référentiel-là ? J'aurais pu encore aborder la dimension interdisciplinaire qui est fondamentale de l'espace public, puisque l'étude elle a été menée, donc elle a été conduite par TVK, accompagnée des paysagistes TN+, de l'agence Ville Ouverte qui nous a accompagnés plutôt sur la dimension de concertation, un certain nombre de chercheurs, je peux les citer, Soline Nivet, Géraldine Texerido, Antoine Fleury ou encore Étienne Balland, et encore toute une somme d'expertises. Voilà, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui et que je trouve qui aussi peut résonner d'une certaine manière avec les discussions de ce matin, c'est plutôt comment ce projet, cette étude, puis la décision qu'on a prise de le faire paraître sous la forme d'un ouvrage, puisque je vous l'annonce d'ores et déjà, le PDF est disponible en ligne sur le. Je pourrais vous donner le lien. quelle était en fait la, pourquoi on a souhaité à l'agence le faire paraître, parce qu'on pense que effectivement des ouvrages sur l'espace public et des ouvrages, on va dire, à une dimension pratique existent assez peu. Et en particulier, ce qui a été tout le travail, je pense, de cette étude, c'est de fabriquer en fait une culture commune de l'espace public. Et véritablement, comment on arrive à dans l'ouvrage se déploie tout un type de représentation de l'espace public qui, je pense, les unes accumulées aux autres, donnent à voir l'espace public dans toutes ses dimensions. Donc je vais les passer un peu rapidement pour arriver à tenir dans le timing, mais on pourra y revenir. On a d'abord fait demander à Sylvain Dufard, un photographe, de réaliser un certain nombre de toute une campagne photographique pour donner à comprendre à l'ensemble des acteurs de la Société du Grand Paris et impliqués dans le Grand Paris Express à quel point ces gares allaient rencontrer un certain nombre de situations extrêmement différentes dans le Grand Paris, et donc aussi donner l'idée que le Grand Paris est fait de multiples géographies. Il y a eu un second travail qui est plutôt, lui, de dimension cartographique et de sortir de la seule représentation du Grand Paris Express par, on va dire, je pense que, je ne sais pas si tout le monde les a vus, mais la représentation de des nouvelles lignes de métro. Donc là, on vient déjà s'attacher à l'ensemble des infrastructures de mobilité. Mais c'est aussi donner à voir cette géographie du Grand Paris par les sols, par tout un tas de dimensions qui fabriquent une nouvelle vision de ce Grand Paris, moins centrée sur la ville. C'est aussi un travail en coupe, un travail qui permet de... Donc là, on voit en bleu, vous voyez la future ligne de métro avec la coupe topographique et donc les différentes profondeurs des différentes stations. Voilà, donc un certain nombre de représentations cartographiques qui permettent aussi de penser des sous-ensembles, de découper un peu différemment cette géographie et de constituer des ensembles... Des ensembles géographiques. Ici, on a un travail sur l'espace public lié à chacune des gares qui allait arriver dans le Grand Paris. Un travail un peu plus précis. Voilà, on voit ici encore à quel point ça interroge tout un tas de situations urbaines. Une dimension évidemment politique, sociale, et dans ce Grand Paris qui est fortement différent. Il y a aussi comment on met en récit en fait cette fabrication de l'espace public. Et ici, on a travaillé avec l'illustrateur Martin Etienne pour donner à voir le moment de l'arrivée du métro et de la manière dont ça allait se créer dans le temps cet espace public. Un des autres enjeux majeurs, c'est aussi de repenser la gare. Et ce qui pourrait être sa figure d'espace public attitré, qui est le parvis, de repenser aussi la gare comme un espace public. Et donc là, il y a tout un travail qui nous intéresse aussi depuis très longtemps à l'agence, de repenser un peu les imaginaires associés au lieu, notamment au lieu de l'infrastructure. Donc voilà, avec ces slogans un peu choc associés à des représentations. Qui peuvent faire appel à tout un tas d'imaginaires. Donc la gare routière est une place, pardon. Voilà, et donc après, voilà, comment on peut aussi se reposer la question de l'espace public de la gare. Pareil, je les passe rapidement. Et enfin, un gros travail qui est un peu le cœur des représentations, qui est un travail d'abord de fabrication de maquettes, puis d'un certain nombre de maquettes, qui n'était pas destinée à fabriquer des maquettes en elles-mêmes, bien que maintenant elles circulent, elles sont actuellement par exemple exposées dans le cadre de l'exposition Métro à la Cité de l'Architecture. Mais ces différentes maquettes, elles étaient bien destinées à être photographiées, à être mises en scène, et ça allait être donc ce dispositif-là qui allait constituer le support pour l'illustration ou en tout cas la mise en image d'un certain nombre de principes, parce que le référentiel des places du Grand Paris avait vocation à aller auprès des acteurs qui allaient fabriquer ces espaces publics là, leur donner un certain nombre d'idées et de règles pour fabriquer, effectivement, comme je le disais, cette, euh, cette vision commune de l'espace public. Et donc le cœur de l'ouvrage, ce sont ces différents principes qui se déclinent à des échelles aussi assez différentes. Donc pareil, je les passe rapidement. Et donc on voit aussi ce travail sur les visuels comme tout un travail d'animation de ces maquettes. Voilà, donc vous pouvez voir des principes qui paraissent, je pense, à nous tous assez simples, mais qui méritent d'être rappelés. Et enfin, pour conclure, c'est vraiment tout ce travail-là, mais c'est un travail qu'on mène depuis très longtemps à l'agence, qu'on appelle d'architecture du sol. C'est vraiment faire la démonstration que l'espace public et cette fine épaisseur de croûte terrestre qui fait le lien entre une géographie, donc ici on appelle le substrat, le sol, des usages et dans un sens plus large des milieux. Donc c'est vraiment dans ce travail de représentation que j'ai abordé rapidement. C'est vraiment comment on peut essayer de changer fondamentalement la manière dont on représente le projet d'espace public. Et c'est des choses qui sont toujours à l'œuvre à l'agence et qui, et ce travail-là a été fait l'objet d'une vraie, véritable transformation dans la question des modes de représentation.
Bonjour à tous. Donc, je vais peut-être quand même présenter un peu les personnes qui interviennent avec moi. Je suis accompagnée de Emma Vézier, qui est architecte à l'atelier Sidi, Tony Le Porcher, architecte également, et Cédric Antier, qui est concepteur paysagiste concepteur. nous, aujourd'hui, ce qui nous semblait intéressant, c'était de venir partager un peu notre expérience autour de la thèse CIFRE, qui s'est dessinée en fait comme un moyen d'interroger les pratiques d'une agence de conception paysagère. Pour contextualiser un petit peu ce retour d'expérience, il s'agit d'une recherche portant sur la conception d'espaces publics favorables à la santé, qui s'est construite au sein de l'atelier Arcilly. Ça nous semblait important aussi de revenir un peu sur les différents termes qu'on emploie. Cette construction de la recherche, elle nous a conduit peu à peu à aborder le sujet au travers de la recherche expérimentation, qui est une notion qui a été notamment développée par Pascal Nicolas Lestrat. Et ce qui est intéressant avec cette recherche expérimentation, c'est qu'elle dépasse le cadre réflexif et qu'elle cherche plutôt à s'inscrire dans une dynamique de construction, de fabrique, de test. Et ici, ça se traduit par le fait que les membres de l'agence soient véritablement partie prenante de la recherche. Donc cet ancrage au terrain, il permet à la fois une connaissance fine de celui-ci, mais il permet aussi d'adopter une posture critique donc à la croisée des champs académiques et du monde opérationnel. Et c'est notamment cette croisée des mondes, on va dire, qui permet la mise en place d'expérimentations qui dépassent le cadre des méthodologies d'enquête qu'on pourrait dire un peu classique. En ce qui concerne la critique, on la voit comme quelque chose qui vise à un changement. Donc elle vient remettre en question, parfois contredire, surtout elle permet en fait aussi d'imaginer et de créer. Donc dans la thèse, la critique, on l'aborde de deux façons. Il s'agit à la fois de la critique des espaces publics. Donc ici, on les comprend comme des lieux du commun qui se définissent en opposition à l'espace privé. Mais c'est aussi l'endroit où on peut rencontrer autrui. Ils sont par définition accessibles à tous, sur le terrain, on se rend bien compte que cette idée d'inclusion par essence, elle n'est pas vraiment vraie. Et dans la thèse, cette critique, c'est aussi la critique de la pratique de conception d'espace public. Et donc là, on peut tisser un lien de cause à effet, c'est-à-dire que c'est en adoptant une posture critique sur la pratique de conception que la nature des espaces publics pourra elle-même évoluer. Pour contextualiser un peu, dans le cadre de la thèse, cette critique de la démarche de conception, elle se fait au prisme des problématiques de santé. Cette réflexion s'est notamment construite à partir d'une hypothèse, voire même d'un constat, selon lequel les enjeux de santé sont aujourd'hui peu pris en compte en fait, dans les projets de conception d'espace public. Et donc c'est Mince, on aurait dû passer. C'est pas grave. C'est donc tout ce cheminement qui nous a conduit en fait à nous demander dans quelle mesure la recherche expérimentation elle permet d'adopter une posture critique sur la conception d'espace public au regard des enjeux de santé. Et donc pour parler un peu de ça, on va plutôt revenir de façon chronologique sur les pratiques de l'atelier Arcilly. Du coup, je passe la main à Tony.
Bonjour, je suis donc Tony Le Porcher. Moi, je suis architecte de formation. Je vais juste essayer de raconter comment on a fabriquer l'atelier Arcilly, comment on l'a construit avec Cédric. D'abord, c'est une rencontre de deux regards et deux approches différentes, qui étaient celle du paysage d'un côté et puis celle de l'architecture de l'autre. Et la multiplicité des regards et la volonté de multiplier des regards, c'est ce qui nous a amené petit à petit à arriver jusqu'ici. Donc d'abord en 2008. Le fait de travailler ensemble et puis d'essayer d'avoir chez nous des étudiants parce que forcément on s'éloignait de plus en plus du cadre de l'école, donc on voulait essayer de garder un contact comme on pouvait. Le stagiaire qu'on accueille, comment on fait, ce qui nous intéressait, c'est pas tant d'avoir un stagiaire qui grattait un peu à l'agence, mais plus d'avoir quelqu'un où on se sentait obligé, en tout cas, de passer du temps avec lui pour expliquer ce qu'on était en train de faire, pour être audible. Et ça, ça allait être quelque chose qui allait fabriquer de plus en plus en fait, notre démarche beaucoup plus loin. En 2011, on a eu l'opportunité, alors c'est quelque chose qui s'est fabriqué de plus en plus en Bretagne, travailler sur du renouvellement urbain. Et là, de mettre en place des tables rondes dans une petite commune, Ifindi, 4000 habitants. Et donc de fabriquer le projet, de commencer à fabriquer le projet avec les habitants, les acteurs du lieu, les commerçants, quelques habitants, tous les acteurs et les usagers du lieu dans le renouvellement urbain. Alors au départ, c'est en 2011, surtout écouter les doléances. Voilà. C'est pas tellement fabriquer le projet, mais c'est inclure ça. Et c'est se mettre en posture critique par rapport à des usagers. Voilà, je vais revenir doucement sur la critique, mais justement, c'est on commence à se donner les moyens de se faire taper dessus un peu directement. Et finalement, ce n'était pas quelque chose de déplaisant. Du coup, on a poussé de plus en plus la chose de plus en plus loin dans le projet, essayer de ne pas seulement être dans ces stades, dans cette phase... de diagnostic, mais d'aller de le construire en fait dans notre projet commun et puis dans le projet de conception lui-même. En 2018, on crée la SCOP, donc on se réunit. J'essaie d'accélérer. Et là, la SCOP, l'esprit SCOP, l'esprit coopératif a du sens pour nous dans le sens où justement il y a une égalité architecte paysagiste et puis une égalité avec tous ceux qu'on allait accueillir à l'intérieur de la SCOP. On ne savait pas encore qui allait venir, c'était un ingénieur, un géographe, un autre architecte, peu importe, paysagiste. Le but étant de créer cette interdisciplinarité de façon égale et horizontale. On a cassé vraiment l'ascendance, cassé l'omnipotence et l'omniscience un peu du concepteur. Voilà. On brise un peu tout ça, on a été un peu forgé dans les agences d'urbanisme où justement on avait cette pluridisciplinarité. Sortir de l'entre-soi, voilà, c'est vraiment le mot d'ordre. Une fois qu'on est retourné un peu sur nous-mêmes, voilà, de se poser des questions, d'être un peu critique sur notre façon de faire, de ne pas se retourner, regarder à tout prix le projet à travers le paysage, à travers l'architecture, mais plus à travers les gens. En 2020-2021, on a eu la chance avec le Covid, c'est paradoxal, que les gens avaient vraiment envie de sortir, étaient un peu disponibles. Donc on a réussi à fabriquer du projet avec les gens, mais là, dans la conception lui-même, oui. D'accord. Donc vraiment, et de partager, leur donner les moyens et donner les outils à chacun, de discuter avec nous dans la fabrique. Du diagnostic, on fait avec eux les promenades, etc. Ils nous disent, ça va pas, ou ça va. Et puis après, dans la conception, on fabrique ensemble. C'est-à-dire que là, nous, on modestement, sobrement, on prend une autre place, on réduit notre place de concepteur juste au projet. Et vraiment, Et l'espace public, on le donne à l'usager. C'est lui qui est là, c'est lui qui le fabrique avec nous, c'est lui qui va le vivre après tout. Nous, on va le laisser. Donc c'est vraiment un partage des outils. un peu façon éducation populaire. Donc c'est là où on s'écarte tout à coup de l'université. Et pourtant, c'est bien grâce à cette notion universitaire qu'on arrive aujourd'hui ici à pouvoir parler en fait d'un peu d'éducation populaire, du principe de projet paysager ou architectural.
On va accélérer, c'est ça. Donc très rapidement, oui, on voulait revenir justement sur quelques exemples du travail qu'on a pu faire à l'agence. Alors l'atelier Silly, on est installé en Bretagne, donc c'est oui une coopérative de aujourd'hui 5 personnes et on travaille surtout sur des petits bourgs ruraux comme des plus grosses collectivités, mais voilà, il y a une très grande présence des petits bourgs ruraux. Donc l'exemple de Hogan, c'était pour finir rapidement justement à la manière dont on a pu élargir au travers du travail de la thèse de Marie, comment on a pu élargir les horizons dans la manière de concevoir les espaces. Et en fait, on a intégré la commande initiale du bourg de Hogan de 1500 habitants, c'était d'avoir une stratégie de réaménagement des espaces publics. Et entre les lignes, on a pressenti qu'il y avait peut-être la place de mettre une nouvelle compétence dans l'équipe qui serait justement celle d'une ergothérapeute qu'on a associée justement à l'équipe et qui a permis véritablement d'avoir un travail en profondeur, à la fois d'aller vers les différents citoyens, vers les différents corps de métier qui peuplaient Hogan, et puis de mettre en place justement des ateliers qui soient pas simplement des ateliers de construction du projet, mais des ateliers de questionnement de l'espace public et des usages et de ce qu'on pouvait projeter à terme dessus, mais avec un autre regard que celui purement de la conception. Donc voilà, on a réussi à mettre en place, grâce à Marie Venot de Villentrop, différents ateliers dirigés à la fois vers les personnes âgées, vers les plus jeunes, vers les écoles, donc d'essayer de mobiliser finalement toutes les personnes qui font vivre cet espace public. Voilà sur les grandes lignes sur la partie de Hogan, puisqu'on accélère un peu. Cornu.
Du coup, je vais faire beaucoup plus vite. Cornu, là on a eu renouvellement urbain, extension urbaine et à l'intérieur du projet construction, déconstruction, reconstruction d'un EHPAD. Donc là on n'avait pas les acteurs de la santé au sein de l'équipe mais qui étaient à l'extérieur. Et donc on est allé vers eux, on a essayé de les inclure, de discuter aussi avec les riverains et on cesse nous-mêmes sensibiliser à la façon dont on pouvait amener la santé à l'intérieur du projet. Dans la conception elle-même, comment on amène ces petites personnes âgées de l'EHPAD, par exemple, jusque dans le centre-ville qui est juste à côté, comment on les amène à discuter avec les riverains, et puis rencontrer encore des ergothérapeutes, justement, pour fabriquer un banc, où est-ce qu'on le place, etc. Mais voilà, toujours en étant en prise directe avec ceux qui vont faire vivre le lieu. Voilà, donc tout ça, cet objectif de pouvoir enrichir notre démarche, d'être critique sur notre propre démarche et de la faire avancer toujours un peu plus loin.
Je vais passer dernièrement sur un dernier projet. Carentoir, pareil, une petite ville. On est sur un projet de réaménagement d'une place de village. On propose une concertation, carrément une permanence urbaine à la commune qui n'en veut pas mais qui nous retient quand même. En fait, notre démarche les intéresse mais ils en ont peur. Donc il y a un dialogue qui s'instaure. Voilà, nous, quand on travaille sur les espaces publics, on travaille avec des communes qui ont peur de la critique. C'est des gens qui ont besoin d'être réélus, etc. etc. C'est pas naturel pour eux d'aller chercher la critique. Mais tout à l'heure, quelqu'un disait dans les présentations précédentes, tous les arguments peuvent être retournés. En fait, tous les arguments qui disent qu'on a peur de la critique, on peut les utiliser pas atténuer la critique, mais pour la dédramatiser. Le fait de faire des ateliers, etc., ça a amené les gens qui étaient critiques envers la commune à se poser les bonnes questions de pourquoi ils étaient critiques, à critiquer eux-mêmes le projet, à proposer des solutions. Donc en fait, une fois que le projet est sorti, ils n'avaient plus tellement de critiques que celles qu'ils avaient déjà faites. Et là, on a réussi à convaincre la mairie de se poser avant les travaux dans une position critiquable.
C'est juste le mot pour conclure, justement, montrer que ce qui nous semblait intéressant dans la recherche-expérimentation, c'était qu'on pouvait justement, qu'elle amenait en tout cas de nouveaux questionnements sur les pratiques de l'agence. On cherchait notamment à s'interroger sur comment faire mieux, comment dépasser les limites justement qu'on avait pu observer dans certains projets. Et en fait, justement, c'est, cette recherche, elle permet de mettre en place des expérimentations qui permettent de tester des hypothèses, donc comme l'intégration des professionnels de la santé justement dans la démarche de projet. Et c'est tout ça qui permet aussi de dessiner des perspectives d'évolution d'une pratique, enfin des pratiques d'une agence de conception paysagère.
J'ai un peu changé de... Donc, je suis paysagiste de formation. J'ai fait une thèse parce que j'avais envie d'intégrer des pratiques de recherche dans la conception. Finalement, j'ai pu l'expérimenter assez récemment au travers d'un travail de recherche-action où, effectivement, le travail de recherche nourrissait, par son aspect critique, le projet en train de se faire. Mais j'avais pas envie, enfin, j'en suis assez convaincue de ça et j'avais pas envie d'exposer ça. J'avais plutôt envie de me poser des nouvelles questions. Donc je me suis posé la question suivante, pourquoi j'ai jamais eu envie ni besoin de revendiquer la critique dans mon activité de recherche. Je vais essayer de voir là tout de suite quels sont les segments de convergence et de divergence entre la critique d'espace public, de territoire et la recherche en paysage. Donc pour y répondre, j'ai fait une tentative de classement des postures critiques. Ça vaut aussi bien pour l'espace public que pour tout objet littéraire, architectural, etc. Alors, l'étymologie, crinine, discerner, trier, criticos, capable de discernement, de jugement. Effectivement, à la connotation du terme critique, on est dans cette question de la prise de position. Donc je dirais que c'est la première posture, c'est la posture d'engagement, à la fois arbitre, à la fois jouteur, à la fois militant. Je développe hyper rapidement les trois. Alors c'est Jean Starobinski qui est un historien des idées, théoricien de la littérature et médecin psychiatre qui a écrit La relation critique en 1970. Il fait pour s'amuser un peu une généalogie hypothétique de la critique. Donc il dit avant, quand on était dans... Alors, je résume, hein, ça va être certainement avec des erreurs, mais c'est pour aller vite. Quand on était dans le rituel, la reproduction de gestes, dans le cérémonial, il y avait un modèle impérieux qu'on répétait, et donc c'était le degré zéro de la critique. Et puis il est apparu le rituel du concours, un arbitre, un gagnant, un perdant. Et puis, on fait un pas de plus, il s'est agi ensuite de restituer un texte, rétablir un passage corrompu. C'était le rôle du critique, en fait, de retrouver la parole juste. Donc le critique était garant, il avait un pouvoir d'invalidation. Et puis on fait un pas de plus, et là les textes s'autonomisent, et le critique devient lui-même le pouvoir instituant. C'est plus le texte initial, c'est vraiment le critique lui-même. Qu'est-ce qui fait la légitimité de cet arbitre? Soit par son statut, soit par sa qualité d'exercice rhétorique. Donc finalement là-dedans, moi je me reconnais un petit peu dans la recherche, arbitre, juge, prise de position, au final nos travaux de recherche ont quand même cet objectif-là. Donc je disais arbitre, deux jouteurs. À partir de cette prise de position, il y a possibilité de mise au débat. Donc plus qu'arbitre, c'est la prise de position qui compte. Si je prends position, j'invite l'autre à se situer, donc je crée les conditions d'un débat. Si je prends un exemple, j'en parlais avec un collègue paysagiste avec qui je travaille en recherche-action, qui me dit, et qui est très demandeur de cette parole critique, il a envie de faire des podcasts et tout. Il dit à Angers, Béchu, il a torpillé Berge de Maine. Il aurait fallu un débat à ce moment-là, parce que Christophe Béchu, maire d'Angers, a fait en sorte que sa politique n'était plus de supprimer la voie sur berge, mais de... et donc le réseau critique est venu travailler sur ce projet-là, qui est un projet finalement de pis-aller. Et ce qui est intéressant là, c'est que cette mise au débat, on n'est plus dans le cadre strict de la recherche, on est dans le transfert vers la société civile. Gladys Mariva, journaliste littéraire dans Le Monde, dit « On n'est non pas dans la sphère des élites, mais dans la sphère sociale ». Donc voilà, la critique pourquoi on a ce glissement-là et qui correspond à la recherche aujourd'hui. Et troisième, donc j'ai dit quoi? J'ai dit « arbitre, jouteur et militant », donc on va vers le militantisme. Arnaud Vivian, critique littéraire du Masque et de la Plume, qui a écrit « Quantique de la critique » en 2021, parle de la nécessité de l'idéologie dans l'acte critique. C'est la défense d'une idée, d'un système de valeurs. Là, l'objet de la critique devient prétexte dans le cadre d'un... Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne me suis pas assez relue. Oui, c'est plus un objet de la critique tout seul, c'est plus un projet qu'on va étudier, c'est un engagement plus global. Moi, je me sers de cet objet-là comme prétexte à défendre mon idéologie. Là, on sort du cadre de la recherche, quand même. Quoiqu'ici, la ligne de séparation est un peu floue. Mais je retiens quand même de cette première posture, finalement, arbitrage et mise au débat. Et je me dis, bah oui, peut-être que je devrais davantage revendiquer ça. Deuxième grand type de posture, la posture d'exégète. J'ai pas lancé le chrono. Alors, pourquoi exégète ? Exégète, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui explique un texte obscur. Quelqu'un qui va déterminer ce que l'auteur voulait dire à ses destinataires. Donc là, on avait l'étymologie de critiquer et on a l'étymologie de analyser. Je me suis toujours beaucoup plus reconnue dans le terme analyser. Analyser, l'étymologie analmein, défaire une trame, analuo, délier. Crinine, c'est discerner, analyser, c'est délier, défaire. Donc on est dans l'explication davantage. Mais les deux sont liés. En 1578, l'analyse, c'est l'étude critique d'un ouvrage. Là, le critique, il est plutôt anthropologue, comprendre des fonctionnements, des pratiques. Historien, éclairer les pratiques par le guide du temps long, on en a besoin en paysage. Théoricien, je pense à Françoise Fromono qui, dans Manière de penser l'urbanisme, donne un éclairage des pratiques d'urbanisme en 2011, contemporain, en les classant en différentes approches. C'est complètement éclairant et c'est un travail de critique. Et j'irais jusqu'à dire que l'exégète, il explique, il interprète. Donc la fonction ici, c'est plus celle de juge, mais de commentateur. La posture, elle est traductrice, explicative. Donc dans notre domaine, c'est théoriser la démarche paysagère au travers d'analyses, de cas singuliers, de récurrences. Donc l'activité de chercheur, elle investit pleinement ces champs-là. Et se définir comme critique, peut-être clarifierait notre posture de chercheur et sa compréhension. Vous cherchez quoi ? Voilà, je suis critique. Donc voilà, à nouveau adéquation. Troisième posture, et donc je terminerai par ça, c'est la posture de narrateur. Alors je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, c'est ce à quoi j'aboutis à cet instant T. Donc elle est développée par Jean Starobinski dans son ouvrage qu'il appelle « La relation critique ». Donc c'est vraiment la notion de relation qui est importante pour lui. Et il dit, il ne s'agit plus d'expliquer, enfin non, c'est pas lui qui le dit, c'est moi. C'est non plus expliquer et traduire, mais c'est raconter avec des mots ce qui se joue dans les formes, pour nous, dans le texte, pour un critique littéraire. Donc ici, le projet d'espace public ou de territoire est considéré comme une œuvre dont un texte critique se fait l'écho. Cette relation qui se noue entre les deux écrivains, c'est une relation qui se noue entre les deux écrivains. Non, je ne sais plus ce que je veux dire. Ok. J'avais envie de lire un passage de Starobinski parce que je trouve qu'il... En fait, il récuse toute méthode construite a priori pour faire ça. À la vérité, si le discours critique pouvait accéder à la généralité, il deviendrait l'équivalent d'une science. Et ce serait une confusion. Parlant de ce que les œuvres comportent de rompu et de discontinu, nous développerions le legato du savoir. Nous retrouverions ces plans et ces niveaux dont je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas demeurer captif. L'irrégularité turbulente, la contradiction entre les œuvres et dans les œuvres serait recouverte par la prolifération invasive et monotone de la théorie. Le tumulte disparaîtrait sous les concepts qui en rendraient calmement compte. Trop amoureux de sa propre unité, le discours critique ne quitterait plus son grimoiré. Donc là, clairement, on a une rupture très forte entre recherche et critique. Les deux segments sont complètement dissociés. Et je trouve ça très intéressant d'aborder aussi la critique de cette manière-là, et sur le champ du paysage aussi. Et je pensais à une autre configuration, c'est l'écrivain de paysage. Alors Olivier Domergue, c'est un écrivain, poète de prose, qui prend pour objet des paysages pour objet exclusif de ces textes, de ces ouvrages. Vassivière, New York, la place du Cal à Charleville-Mézières, les paysages du Finistère Sud, etc., etc. Il est exposé en ce moment au Centre international de la poésie à Marseille. Et tous les signes du monde qui sont contenus dans le paysage, il les qualifie de champ général, en concluant que l'on peut aussi les appeler poétiques du territoire, comme s'il y aurait un langage du territoire. Donc La Domergue est à la fois critique de paysage et, en tant qu'écrivain, potentiel objet de critique. Voilà, donc si science et critique se situent ici sur deux plans distincts, ben, explorer ces pistes semble fertile pour transmettre le paysage et ses projets, notamment dans des cadres où recherche et conception se croisent et dans lesquels la recherche cherche une voie VOX.
Et effectivement, merci pour vos applaudissements, ils les méritent. On vous proposait de commencer peut-être dans un premier temps, si vous voulez réagir les uns et les autres, même si parfois vous êtes multiples, aux présentations des autres. Quels sont les échos, les convergences, les divergences que vous avez pu voir dans les présentations des uns et des autres? C'est peut-être pas facile, mais si vous voulez prendre une prise sur quelque chose, notamment de ce que j'ai cru voir, entendre plutôt, dans vos rapports différents, hétérogènes, là encore, à la critique. On voit bien, Fanny a essayé de voir les relations avec la recherche. J'ai cru voir dans la deuxième présentation une critique qui était finalement une critique par la participation, si je ne me trompe pas tout à fait. Quelle était la nature de la critique dans ce référentiel, etc. Peut-être que vous pouvez commencer par réagir sur vos peut-être différentes conceptions de la critique. Et c'est vrai que, sous-tendu, il y avait quand même, au moins pour les deux dernières présentations, le rapport à la recherche et à la connaissance. Donc peut-être on peut commencer par avoir un petit tour de table sur vos réactions sur les uns les autres, et puis ensuite on laissera la parole à la salle.
Je veux bien commencer. Moi, je me disais qu'il y avait qu'il y avait probablement une dimension critique dans la manière dont on s'empare de la commande. Et c'est notamment en vous écoutant que je me suis dit, c'est aussi comment on s'empare de cette commande, comment soit on y répond complètement, soit on y répond en effectuant un petit pas de côté. Et c'est aussi un peu ce que vous disiez sur le transfert vers la société civile, c'est-à-dire comment dans la commande, qui est donc une commande publique, on s'en saisit, on y répond parce que c'est ce qu'on nous demande, et comment ça aussi, ça peut aussi un peu, à un moment, s'autonomiser, c'est-à-dire que le travail qui résulte de cette commande existe aussi en lui-même. Voilà, donc, et je pense que sur cette question de la dimension critique du travail qu'on a pu mener, c'est... comment on a interrogé qu'est-ce que c'est fabriquer un référentiel d'espace public et comment ça devient un peu autre chose que ce que notamment nos commanditaires attendaient. Et c'est ça qui m'a intéressé dans votre présentation, c'est comment aussi d'une attente d'un maître d'ouvrage, vous en fabriquez un peu autre chose et qui du coup devient un lieu d'expérimentation en soi, un lieu de recherche en soi.
Alors, je vais d'abord faire une réponse. Alors par rapport au référentiel, moi je trouve ça intéressant justement dans cette l'acculturation que ça peut amener dans la diffusion des habitants, de n'importe qui, et que ça ne s'adresse pas forcément aux professionnels. Moi j'insiste dessus, hein, vous l'avez vu dans la présentation, on a insisté beaucoup sur ça, je crois. Du coup, c'est essentiel en fait de savoir montrer et que les gens apprennent à regarder quelque chose. Il y a pas une approche, notre approche, elle est pas, c'est pas la bonne. Il y en a plein, quoi. Donc il faut la multiplier. Donc là-dessus, c'était un beau travail. Alors, j'ai pas pu tout voir parce que c'était juste dans mon dos, mais voilà quoi. Et puis si je me tourne de côté avant de passer le micro, déjà c'était très beau la façon dont tu as abordé les choses et la critique et on s'est dans le développement que tu as fait, moi je trouve qu'on se retrouve énormément justement dans la posture de recherche et d'aller vers les gens et les amener justement à être. Même si c'est des fois c'est dur la recherche, c'est très loin, des fois Marie, on n'arrive pas à la suivre en fait. Mais du coup, ça nous oblige, nous, à réfléchir et puis voir comment on peut amener à faire réfléchir les autres qui sont juste en face de nous pour fabriquer quelque chose, quoi.
Sur la question du référentiel ou de transférer la recherche, sur le projet dont je n'ai pas parlé, là, j'ai trouvé que la recherche... en gros, la demande sur un éperon rocheux au bord de Loire, là, un site classé à Muret-Rignier, c'était d'allier fréquentation du public et protection d'un patrimoine. Et la notion de patrimoine était extrêmement importante, avec plein d'études auparavant qui balisaient ce qu'il fallait faire. Donc en gros, il fallait qu'on mette du monofile, qu'on fasse un panneau de signalisation, un point de vue, enfin tout était fait, quoi. Et donc le travail de recherche a consisté à faire des lectures sur les écueils de la patrimonialisation. Et finalement, on a pu infléchir le cahier des charges comme ça. Mais ça a été fait en douce. C'est-à-dire que le paysagiste qui est gérant du bureau d'études avait l'art et la manière de faire passer différents scénarios et de montrer que voilà, on pouvait s'en éloigner et qu'il y avait d'autres choses. En fait, il suffisait du contenu, un vrai contenu à ce patrimoine. Le patrimoine en soi ne dit rien. Et on s'est dit, pour la prochaine fois, on ira plus loin. C'est-à-dire que on fera intervenir la recherche dans le processus du projet, quoi. Mais vraiment, avec... une prise de parole à un moment dédié à ça, quoi. Voilà. C'est attesté.
Oui, donc je me représente, Sabine Herman. Je suis enseignante à l'école de Lille, dans la formation paysage, et je fais partie du réseau. Donc merci pour vos présentations. Moi, je rebondis sur cette question qui, moi, me perturbe personnellement beaucoup, de la différence entre l'activité critique et l'activité de recherche. Ça rejoint évidemment une question qui a été posée, plusieurs questions qui ont été posées ce matin sur la différence qu'on fait entre l'expertise qu'on peut produire en tant que chercheur sur un projet et la critique qu'on peut en produire, et sur la définition éventuelle d'une activité critique qui se ferait non pas au nom d'une activité de recherche, mais au nom... d'une forme d'amateurisme au sens noble du terme, c'est-à-dire d'intérêt, ni plus ni moins, donc pas du haut d'une expertise, mais du haut d'une forme d'intérêt et peut-être même d'affection pour les projets de paysage ou les projets d'espace public. Et je voulais savoir éventuellement, vous, en tant que chercheur qui utilisez la critique, si... cette position critique, vous seriez prêt à... Enfin, est-ce que vous la revendiquez plutôt en tant que chercheur, plutôt en tant que concepteur, plutôt en tant qu'amateur de projets de paysage ou d'espace public? Je ne sais pas s'il y a des réponses, mais... Voilà. Est-ce que ce terme d'amateur est gênant quand on se met dans la position critique, si je peux résumer?
Je ne sais pas si la réponse que je vais faire est la bonne réponse. Sur cette étude des places du Grand Paris, donc on a été embarqué un certain nombre de chercheurs, et l'étude elle existe en elle-même, l'ouvrage il existe en lui-même dans les dimensions que je vous ai présentées. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les différents chercheurs se sont ressaisis en fait de cet objet pour en faire des articles de recherche. Donc il y a bien deux activités pour moi distinctes dans ce travail-là, et j'allais dire même de manière générale, en tout cas dans la manière dont moi je le vois à l'agence. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est de l'ordre de la lecture critique, du retour critique sur les projets, et il y a une autre activité qui est celle de la recherche. Et pour moi, c'est important que ces deux objets peuvent tout à fait coexister, mais ils sont, en tout cas... dans la manière dont moi je le lis, avec notamment mon expérience de chercheuse, sont deux choses différentes.
Je vais peut-être plus rebondir par rapport à ce que tu dis, je prends la balle au bon. Mais donc justement, ta posture de chercheuse et directrice de la communication, donc ça doit t'amener quand même à des grands écarts au sein de cette agence, donc qui manie des gros projets, etc. Comment tu peux parler de ton expérience un petit peu interventionniste par le lecture critique des projets? Est-ce que tu as l'impression d'avoir une efficience critique sur les projets en cours Parce que directrice de la com, ça rédige les textes. Comment tu vois ce rôle un peu de poil à gratter critique au sein d'une agence comme celle-là?
Là, de la même manière, en fait. C'est-à-dire que pour moi, le rôle que j'ai à l'agence, il est un rôle à côté du processus de conception, qu'il en fait pleinement. D'un côté, il en fait pleinement partie, puisque je suis par mes missions de développement tout au début et tout à la fin, et j'accompagne la manière dont on parle du projet tout au long de sa vie. Et pour moi, de la même manière, c'est-à-dire quand j'accompagne, je rédige les textes, etc., j'ai plutôt une vision critique, ou en tout cas une lecture critique des projets, qui est très différente de la manière dont je peux intervenir dans des colloques ou des choses comme ça, où là, c'est plutôt de la dimension de la recherche. Donc ça évidemment, c'est pas toujours si clair et si séparé, mais pour moi, c'est pas du tout les mêmes. Faire de la recherche, c'est des méthodes voilà, il y a une méthode, il y a de la recherche qui n'est pas celle de la lecture critique. Et donc donc voilà, c'est aussi un travail de pédagogie, j'allais dire, au sein des agences d'architecture, d'urbanisme, de faire cette pédagogie-là de la différence du travail de la critique, on va dire, et du travail de la recherche.
Après, ce qu'on essayait un peu de transmettre aussi au travers de notre présentation, c'était de montrer à quel point on essayait de tisser des liens en fait entre la recherche et le monde opérationnel. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose où, enfin, chacun peut adopter une posture critique vis-à-vis de l'autre aussi. C'est-à-dire que le monde opérationnel a aussi des critiques à faire à la recherche, je pense, dans le fait par exemple d'être parfois déconnecté du terrain ou ce genre de choses. Et c'est aussi ce qui est intéressant, je pense, avec la thèse CIFRE, le fait d'être vraiment au cœur de la pratique, donc à la fois faire la pratique et en même temps venir apporter un regard critique dessus. Et c'est aussi ce qui est assez difficile à faire. Donc, comme tu disais, c'est une double posture qui est, en tant que doctorante, assez difficile. Faut réussir un peu à séparer les deux, parce qu'en effet, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a la méthodologie de la recherche, etc. Mais voilà, je pense que la critique, elle est dans les deux positions. Et du coup, c'est intéressant d'essayer de faire des liens entre ces deux positions-là. Mais en effet, il y a quelque chose qui est un peu complexe et qui est encore à creuser, je dirais.
Ouais, rapidement, pour répondre à Sabine. Moi, j'aime bien quand tu dis affection. Une posture critique qui est là, et c'est la troisième posture de narrateur là, et à laquelle j'avais jamais vraiment pensé, et je pense qu'elle peut vraiment être intégrée dans les démarches de conception, et il n'y a pas de dissociation, je crois. Tu dis on est critique en tant que chercheur, en tant qu'amateur, en tant que concepteur, donc j'ai l'impression que la visée des trois, c'est la conception, que chercheurs et concepteurs vont ensemble, et que l'amateur peut être au service de cette conception.
Merci. Une question, donc.
Moi, j'aimerais qu'on parle des luttes et des conflits, parce que dans les processus participatifs, on a l'impression qu'il y a besoin de créer la paix sociale, pour faire en sorte que le projet avance vite et que du coup, nécessairement, nous, en tant que maîtrise d'œuvre, que les honoraires puissent tomber aussi plus rapidement. Mais je voulais savoir si vous avez déjà vécu des situations où de la critique a basculé à la violence et quelle posture, du coup, vous avez dû endosser par rapport à ça. Et comment le paysage était aussi mobilisé? Est-ce que c'était le paysage qu'on voulait mettre sous cloche, qu'on ne voulait pas de changement? Ou est-ce que c'était un paysage qui ne prenait pas en compte, a priori, les besoins des usagers, des habitants? Donc voilà, ce moment de bascule, est-ce que vous avez déjà rencontré des situations comme ça? Et comment est-ce que vous avez dû jongler avec les situations que vous avez rencontrées?
Oui, par rapport à la participation, finalement, l'expérience que vous que vous cherchez, on l'a plutôt vécu avant. Enfin, c'est vrai que moi, je me suis retrouvé une fois à la gendarmerie suite à un dépôt de plainte pour une altercation un peu musclée lors d'un conseil municipal où justement il y avait la présentation d'un projet qui avait fait l'objet d'aucune participation, d'aucune communication, qui a été imposé à l'ensemble des habitants voilà, un peu de force, malgré tout, toute l'énergie qu'on avait pu mettre au préalable pour essayer de convaincre les élus plutôt de travailler avec les habitants, puisqu'il y avait c'était pareil, hein, sur une petite commune de 3000 habitants où il y avait la transformation d'un secteur voilà, auquel un certain nombre d'habitants tenaient, et là il s'agissait d'avoir une opération de renouvellement et d'intensification, de densification urbaine, qui passait en particulier par l'accueil de logements sociaux, donc qui a pu être justement un élément cristallisateur de conflit. Donc oui, là, clairement, aujourd'hui, en fait, il y a cette notion d'espace commun est toujours un élément clé, et puis un élément moteur, enfin, voilà, où tout le monde se sent possédé par ce bien, même si finalement assez peu l'utilisent, ou la grande utilisation c'est la voiture, c'est l'élément un peu qui cristallise tous les usages aujourd'hui, mais finalement en creusant un peu on peut aller un peu plus loin, on peut aller rechercher ce qui anime derrière les habitants qui ont habité là depuis longtemps, qui ont des histoires, qui ont un vécu sur ce territoire, et c'est toute la dimension qui est assez riche justement dans le processus participatif, et de se dire que finalement ça nous met en position d'humilité, et puis pareil justement par rapport à la position de Marie au sein de l'agence, ça force à être assez humble par rapport au territoire sur lequel on agit, et on agit vraiment en continuité d'usage, en continuité d'un espace qui s'est construit, et finalement on apporte peut-être une petite pierre, une autre lecture, on fait bifurquer un peu les choses, mais voilà, et pour nous justement cette dimension participative finalement c'est de mettre tout le monde autour de la table et de bien répartir les rôles. Il ne s'agit pas de mélanger les rôles et de dire voilà, vous en tant que riverain ou en tant que boulanger vous allez dessiner le projet, c'est pas tout à fait ça, c'est en fait on agit en tant que médiateur, on accompagne, on fait émerger un projet, et après le rôle de décision revient aussi aux élus qui ont été élus pour ça. Donc il y a eu une clarification des rôles qui est extrêmement importante dans ce processus de participation, et au même titre finalement dans le processus de recherche. Et on a beaucoup parlé aussi de la position de concepteur, mais on travaille rarement seul. Et dans les équipes, enfin, on en a parlé un peu tout à l'heure, il y a souvent des bureaux d'études techniques qui viennent les compléter, mais il peut y avoir une vraie richesse finalement à élargir les champs de compétences et peut-être même à associer des compétences qui ne sont pas attendues au sein des cahiers des charges. Et on pense que ça peut être un vrai levier justement pour se positionner différemment par rapport à l'espace public et apporter un autre regard. Le regard de la biodiversité aujourd'hui rentre vraiment dans la dynamique des cahiers des charges, mais on pourrait en apporter tout un tas d'autres autour de l'art, de la culture. Enfin voilà, il y a énormément de choses à intégrer justement pour re-questionner la manière de fabriquer et de vivre ces espaces.
Je peux compléter juste sur le conflit, le conflit dans l'espace public, on cherche pas. On se méfie un peu du consensus où tout le monde serait d'accord et tout. Le projet il contente tout le monde. Généralement, c'est pas un bon projet, ça. Mais par contre, que toutes les divergences toutes les idées divergentes ont été entendues par chacun. Oui, c'est l'objet. Justement, c'est même l'objet de la participation. À un moment, que tout le monde ait entendu la position de l'autre. Voilà.
Je commence par une citation qui est de Michel Serres, qui dit: le problème de l'homme contemporain, c'est qu'il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va, mais il se demande comment. Je ramène ça à l'histoire du Grand Paris et des projets des gares. J'ai moi-même participé à 3 concours de gares, comme paysagiste évidemment. On a été lauréat de 2 concours. Je me suis rendu compte, dès que j'ai commencé à travailler, que c'était des projets de merde. Pas les projets de gare en eux-mêmes, l'ensemble des projets de gare. Le projet du Grand Paris, en réfléchissant. Alors je voulais savoir, vous, est-ce que vous êtes dans le comment, ou est-ce que vous posez la question du pourquoi ? Pourquoi on fait ce grand... Et quel niveau critique vous avez pu avoir, ou est-ce que tout simplement vous êtes en bout de course et vous faites ce qu'on vous demande de faire ?
Juste avant que de te passer la main, je pense que une partie de la réponse a déjà été évoquée tout à l'heure. Quand on a dit qu'on re-questionne, enfin que le premier truc qu'on faisait, c'était de re-questionner une partie des programmes. Enfin, je pense que.
Je pense que une des premières approches a été effectivement de questionner la vision globale du projet du Grand Paris Express. Et c'est pour ça que ça a été ce travail préalable de repartir du territoire, c'est-à-dire c'est le travail de Sylvain Dufard, d'aller photographier tous ces lieux-là, c'est-à-dire de bien donner à comprendre et à voir là où allait arriver le Grand Paris Express. Et c'est aussi ce travail de cartographie qui sortait de l'imaginaire de la société du Grand Paris, de cette ligne abstraite cette ligne abstraite et de tout un imaginaire aussi très fonctionnel de la gare, de l'infrastructure de transport. Donc voilà, c'est par ce biais-là qu'il y a une première lecture critique de ce projet.
Merci. Une dernière question ?
Oui, bonjour, Frédéric Pouzin. C'est une question pour Fanny. J'ai beaucoup aimé la citation de Starobinsky à propos de la relation critique. Et cette citation, alors je l'ai beaucoup aimée pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle elle valorise la diversité, elle valorise aussi ce qu'il y a de chatoyant. Mais surtout, elle souligne que quelque part, la relation critique accompagne l'œuvre. Et du coup, je me demandais si, pour différencier recherche et critique, est-ce que finalement, il ne s'agit pas de deux positions différentes dans la manière de s'emparer de l'objet ? C'est-à-dire qu'en fait, la critique va du côté de l'accompagnement. On l'a vu ce matin. La critique de projet, elle peut intervenir pour aller avec, pour aller pour. Elle poursuit un but qui est celui du projet. Alors que la recherche, l'objet n'est jamais donné dans la recherche. Il est construit. C'est-à-dire que ce n'est pas un donné, c'est un construit. C'est le chercheur qui construit son objet. Il le construit en se donnant un corpus, par exemple. Et donc, c'est très différent. Est-ce que tu serais d'accord pour considérer cette distinction comme une façon de différencier recherche et critique si on cherche la différenciation ? Par ailleurs, on peut chercher la convergence, mais c'est une autre histoire. Mais voilà, ma question est simple. Voilà.
Question simple, c'est relatif. Hein. Je ne sais pas si tu vas donner une réponse, mais on te laisse la parole.
Oui, je suis d'accord.
D'accord. Au moins, c'est simple. Non, mais par contre... merci pour les réponses courtes. J'en attendais pas tant.
En tout cas, merci pour la piste et je vais y réfléchir.
Non, mais par contre, moi, je réponds un tout petit peu. Enfin, parce que c'est vrai qu'il y a aussi débattons alors. Mais rapidement, il a été cité tout à l'heure Pascal Nicolas Lestrade, qui est précisément un sociologue à Paris 8 et qui a développé des recherches qu'il appelle des recherches en situation d'expérimentation, où précisément sa recherche sociologique vise à accompagner les collectifs, par exemple des collectifs qui sont touchés par des opérations en rue, et il les accompagne à comprendre dans la situation dans laquelle ils vivent. Donc, dans cette perspective-là, je ne sais pas s'ils construisent tout à fait l'objet comme vous l'avez énoncé. Mais bon, c'était juste une référence de plus pour participer à la... Je ne sais pas si ça donne vraiment une réponse. Bon, vu que Fanny n'en a pas du tout donné, je me suis dit, je vais essayer quand même d'alimenter tout ça. Une dernière question, et en plus courte.
Moi, je trouve que la distinction que Frédéric Pouzin vient de poser est effectivement très éclairante. La critique travaille sur un objet préexistant. La recherche construit son objet. Mais du coup, moi, ça me questionne sur la façon dont vous avez proposé. Là, c'est une question qui s'adresse plutôt à Marie Guilpin. La façon dont vous avez construit un rapport, alors que vous qualifiez de critique, dans le cadre de démarches participatives, c'est-à-dire dans le cadre de démarches où l'objet n'est pas encore construit, il est en construction. Et donc ça renvoie évidemment à tout un pan de discussion qu'on a eu ce matin, où on a entendu un certain nombre de collègues appeler de leur vœu une critique qui accompagnerait le travail de conception, c'est-à-dire qui interviendrait à un moment où le projet n'est pas encore devenu un objet. Voilà, qu'on peut considérer avec cette fameuse distance critique. Hein, pour qu'il y ait critique, il faut qu'il y ait effectivement une forme de distance. Donc comment est-ce que vous vous positionnez, vous, sur cette relation-là, participation et critique ? Stop, ça y est, j'ai fini.
Du coup, c'est pas tant sur la participation que sur la question de l'intégration des enjeux de santé dans la démarche de projet, moi, vraiment, sur laquelle je travaille, même s'il y a des liens à faire. Mais du coup, je dirais que, en effet, l'objet de la recherche, il a été construit, donc, comme je disais, avec trois parties différentes. Et que c'est justement cet objet qui a été construit qui peut-être insuffle justement la posture critique. Je ne sais pas si je suis très claire, parce qu'en même temps, bon, pour être honnête, je suis en deuxième année, donc ça se construit encore. Enfin, le cheminement est encore en train de se faire. Mais oui, je pense que on a construit l'objet de recherche qui, du coup, induit des critiques au sein de l'agence. En fait, on est amené à prendre du recul sur les projets ensemble de l'agence et voilà, à adopter une posture critique sur eux-mêmes qui préexiste. Je ne sais pas si c'est très très clair. Mais...
Il faut toujours laisser un peu de flou. Et c'est sur ce petit flou que je vous propose de vous arrêter ou on prend une dernière.
Voilà, on va vous inviter à un petit café critique ou thé critique en bas, en restant, si possible, de retour dans 20 minutes grand maximum pour qu'on puisse avoir le temps d'une vraie pause ensuite à partir de 17h jusqu'à 18h. Merci beaucoup. Merci.
Les états généraux de la critique du projet d'espace public, un podcast réalisé par Charlotte Mutel de l'association La Vitrine Itinérante.